Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre Bruno Donnet pour sa chronique Télescopage. À fond, vous comprendrez notre invité, le comédien Cadmeyrade, pour son nouveau film Un Triomphe et aussi un spectacle inédit sur Canal. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui lui est arrivé avant la célébrité. Et puis pour clore l'émission, Marc-Antoine Lebray et ses stories. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe Vandel.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Alors tous les jours Bruno, vous observez très attentivement le travail des médias afin d'en révéler ici les aspérités les plus spectaculaires. Hier, vous êtes régalé en regardant comment la télévision avait couvert le passage de la limitation de vitesse à 30 km/h dans Paris.
Oui, alors vous faites bien Philippe de dire « la » et pas « les télévisions » car j'ai eu l'impression hier que toutes les chaînes étaient à l'unisson. Et tout a commencé dès 6h du matin dans la matinale de LCI. Au moment où notre camarade Hélène Manarino a lancé une journaliste qui avait eu une sacrée bonne idée.
Hélène Bonnet, vous êtes sur place, vous êtes en voiture.
Eh oui, figurez-vous que la reporter de LCI se trouvait au volant dans Paris.
Bah écoutez, on est en train de faire le test rien que pour vous ce matin. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est très très lent, 30 km/h.
Le hic, c'est qu'en allant jeter un œil sur M6, je suis tombé sur une autre journaliste en voiture, elle aussi.
On est à 30 km/h. Première impression. Eh bien, c'est un peu frustrant parce qu'il faut avoir le pied très léger sur la pédale, c'est pas forcément habituel, on doit rester en deuxième.
Et quant aux envoyés spéciaux de France 2, eh bien, vous ne devinerez jamais ce qu'ils ont eu l'idée de proposer à Anne-Sophie Lapix pour son 20h.
Nos journalistes ont eux aussi levé le pied, voyez leur reportage.
Un sujet en bagnole.
Le compteur devient vite le centre de notre attention.
Ils y ont scruté le compteur comme leur consort d'M6.
J'ai les yeux rivés sur le compteur pour ne pas le dépasser.
M6 qui a rencontré de gros problèmes de dépassement.
Comme vous pouvez le constater, tout le monde me dépasse. On m'a klaxonné tout à l'heure, j'ai eu un appel de phare.
Comme LCI.
On a même failli se faire doubler par un vélo, c'est très très lent.
LCI enrhumé par une bicyclette comme M6.
Même les vélos vont plus vite que moi.
Voilà, mais le plus spectaculaire, Philippe, n'était pas là. Car le plus saisissant hier fut la manière avec laquelle les journalistes ont traité cette info. C'est bien simple, ça les a rendus complètement marteaux. Ils ont donc commencé en balançant des micro-trottoirs qui disaient ça.
C'était une catastrophe, c'est du jamais vu.
Ou encore ça.
Bon, c'est n'importe quoi, 30 km/h, c'est pas possible.
Avant de monter d'un cran en plateau, et c'est ainsi que sur CNews, Jean-Claude Dacier a bien failli péter une durite à cause d'un sondage qui affirmait que 6 Parisiens sur 10 étaient favorables à la mesure.
Il aurait fallu faire un sondage sur
Jean-Claude râle déjà avant même que j'ai donné le chiffre.
Sur les automobilistes, ça aurait été plus honnête.
Voilà, tandis que sur BFM TV, Yves Calvi était à deux doigts de faire fondre son joint de culasse.
Vous ne pouvez pas décréter qu'il y a les gentils automobilistes qui ont raison de prendre leur voiture et les crétins qui font n'importe quoi, c'est pas possible.
Mais les meilleurs, Philippe, je les ai trouvés hier soir sur LCI.
Vous êtes parisien, je crois, Eric.
Oui.
Bonne chose.
Non. pas vraiment exalté par l'idée.
Dans la toute nouvelle émission de l'indépassable Éric Brunet.
On peut dire quand même globalement que ça renacle et que ça rechigne et que ça ne plaît pas du tout aux gens.
Où j'ai fini par entendre peu après 22h que la limitation de vitesse était destinée à séduire qui ? Attention, oreilles sensibles, éloignez-vous du poste, car la formule pique un peu.
Pas mal de gens paxés qui n'ont pas vocation forcément à avoir des enfants.
Des gens paxés qui n'ont pas forcément vocation à avoir des enfants, traduisez des homosexuels ou la démonstration, Philippe, que même à 30 à l'heure, on peut allègrement franchir le mur du son.
Merci beaucoup Bruno Donnet, belle démonstration. Stéphanie Loire,
oui.
Le programme de votre indispensable du jour.
Aujourd'hui, je vous parle de deux frères de génie, les rois du glam rock. Ce sont les Sparks qui ont signé la bande originale du film Annette de Léos Carax.
Dans un instant, on sera avec Cadmeyrade dans ce studio pour parler d'un film qui sort demain, son film plutôt, le film dont il est la tête d'affiche, Un Triomphe. Mais d'abord, musique, c'est un duo Grand Corps Malade et Kimber Rose sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.
Même si c'est tentant de fuir le présent, s'il te plaît, ouvre les yeux. Regarde devant, va où va le vent, et après, fais de ton mieux.
Prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. D'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Déconfiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années, l'avenir. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années? L'avenir nous les rend. Où sont passées?
Où sont passées? Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
Nos plus belles années, c'était Grand Corps Malade et Kimber Rose sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Cadmerade.
Bonjour Philippe Vandel.
Faut-il vous présenter, comédien, bienvenue chez les Ch'tis, les Choristes, les Tuches, le petit Nicolas, Marseille, réalisé par vous et pour ne citer qu'une seule série, Baron Noir évidemment. Votre actualité, c'est un triomphe. C'est le titre du film d'Emmanuel Courcol avec Laurence Tucker et Marina Hans qui sort demain. Film qui a été présenté en sélection officielle au Festival de Cannes 2020. Pas de montée de marche pour cause de Covid. Et prix public
Angoulême.
Et prix du meilleur acteur officiel d'Angoulême. Film qui séduit à la fois le grand public et la critique, c'est assez rare pour être signalé. Dès le début du film, il est indiqué d'après une histoire vraie. Moi, je suis journaliste. Je vais vous dire, ça m'a beaucoup touché, c'est ce que je préfère. Mais vous, est-ce que cela vous a touché ou est-ce que c'est pour vous indifférent qu'une histoire soit vraie ou non si l'écriture est réussie?
Non, effectivement. D'abord, il y a un scénario qui est formidable d'Emmanuel Courcol, le metteur en scène. Et ensuite, adossé à une histoire vraie, c'est-à-dire tout d'un coup... En plus, j'ai rencontré le vrai metteur en scène qui a vécu cette aventure en Suède dans les années 80. Et oui, il y a une dimension un peu plus émouvante finalement de raconter l'histoire qui est arrivée. Surtout que ça paraît, cette histoire paraît tellement dingue qu'on imagine qu'elle est sortie juste d'un cerveau d'un scénariste. Mais non, elle est vraiment arrivée. C'était vraiment Samuel Beckett, c'est vraiment en prison. Rien n'est inventé en fait. C'est pour ça que c'est assez formidable.
Quelques petits indices dans la bande-annonce.
Mais vous avez jamais travaillé avec des détenus ?
Si, un petit peu. Mais c'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries.
Ah d'accord. C'est pas pareil.
Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien.
On va faire des sketchs, nous, monsieur.
Bah ouais, nous, on va faire du stand-up.
Les sketchs, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre.
Mais c'est bizarre, on vous a jamais vu.
Vous êtes pas dans un théâtre, ici. Vous êtes dans une prison. Avec des délinquants, des criminels.
Non, tu parles pas comme ça, moi.
Attends, je te parle comme je veux, je suis metteur en scène, ici.
Moi, je veux que les spectateurs, ils oublient d'où vous venez.
Je crois qu'on oublie d'où on vient, non?
Le public est saisi du grand théâtre.
Je crois que vous allez faire une tournée.
C'est pas pour eux que t'as fait ça, c'est pour toi.
Et alors? J'ai pas le droit d'exister, moi ?
Allez, c'est passé ça, quand même.
Étonnez-nous. Ça, vous l'emporterez avec vous. Personne ne viendra vous le piquer, ça.
T'es fâché?
Ah non, je suis pas fâché, non.
Non, mais je joue, là, c'est mon texte.
Ah bah, c'était bien, là. C'était juste, non?
Ça me fait encore rire. C'est un film avec des moments très, mais... très légers, c'est un compliment, et parfois des moments très profonds. Alors, c'est quoi cette histoire vraie, celle du film?
C'est l'histoire d'un metteur en scène, acteur sur la touche, qui a besoin de travailler, comme tout le monde, évidemment, mais qui a besoin surtout de faire ses heures, comme on dit, vous savez, dans le milieu des intermittents, il faut faire un certain nombre d'heures pour ensuite bénéficie du chômage, évidemment. Et donc, il accepte un peu n'importe quel boulot, notamment d'animer des séminaires d'entreprise. C'est ce qu'on voit dans le film. Mais c'est ce qui est vrai aussi dans la vraie vie. Et puis, un jour, il accepte de remplacer un copain pour animer des ateliers de théâtre en prison, donc dans des prisons, des vraies prisons. Là, on a tourné dans une prison, une vraie hameau, 900 détenus quand même, une grande prison, un centre de détention, des longues peines donc. Et il accepte de cet atelier. Alors au départ, ils font des fables de La Fontaine, eux, ils veulent faire des sketchs. Enfin bon, c'est très léger tout ça. Et puis, à force d'entendre, je vais finir Philippe, à force d'entendre que leur vie n'est faite que d'attendre la promenade, d'attendre de sortir, d'attendre de manger, des visites, il lui vient l'idée de monter cette pièce improbable, mais cette grande pièce absurde, du maître de l'absurde, de Samuel Beckett, en attendant Godot. Et ensuite, voilà, l'histoire commence.
On peut, j'ose pas le faire si vous m'autorisez pas, on peut raconter la fin, la chute, la raison pour laquelle cette histoire est absolument exemplaire, emblématique ou pas?
Alors on a réussi à garder ce secret parce que ça s'appelle un triomphe. Ça s'appelle un triomphe, c'est pour une bonne raison.
Je garde le secret.
Pas forcément celle qu'on attend.
J'en ai des frissons en pensant à ce qui va arriver. Il y a quelque chose d'absolument dingue. On n'y croit pas, sauf si on sait que ça va vraiment arriver. Alors, je voudrais qu'on entende votre première rencontre avec votre bande d'apprentis comédiens. Ouais. C'est des tôlards, ils vous testent. Ils sont un peu chambreurs, mais vous ne laissez pas faire, on écoute.
Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien.
Vous faites de la télé?
De temps en temps, oui.
Mais c'est bizarre, on vous a jamais vu.
T'es con, quoi, il serait une star, il serait pas avec nous, tu réfléchis un peu.
Pas le jour, on va faire du stand-up et tout.
Ah ouais?
Ouais.
Bien.
Non, mais je vous ai dit, les sketchs, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre.
Du théâtre comique?
Aussi, oui. Ah, voilà. Vous êtes un marrant, alors?
Ouais.
De temps en temps.
Mais là, vous êtes pas marrant, vous êtes tendu, là.
Non, je suis pas tendu.
Si.
Et ça paye bien le théâtre, sinon?
Ben non, regarde ses pompes.
Hey, il est pas mal votre sac aussi, monsieur. C'est quoi comme marque? Emmaüs?
Bon, c'est bon, c'est vous avez fait le tour.
Ah, monsieur, le prenez pas mal. C'est comme ça ici, on fait des vannes tout le temps.
Ah ouais.
Bah tiens, justement, toi, est-ce que tu veux faire du stand-up? Vas-y, on t'écoute.
Vas-y, mon
collègue. Ouais, en putain, grande gueule ce matin, là, vas-y. Non, mais là, je suis pas chaud, ta gueule.
Non, mais c'est pas grave. Vas-y, lance-toi, comme ça, on rigole tous ensemble.
Non, mais c'est bon, je vous dis.
Alors, c'est qui est marrant, là?
Ah, ici, le meilleur, c'est Jojo.
Non, mais je suis pas drôle. Toi, t'es drôle.
Frère.
Non, je suis pas drôle.
Ouais, y a plus personne, alors. Ouais.
C'est fou, hein.
Vous dites, plutôt, vous en avez vu passer, vous, des comédiens dans votre carrière, et vous dites avoir été ému par cette rencontre, par cette bande.
Oui, parce que je connaissais pas ces acteurs magnifiques. J'espère qu'on aura le temps de citer. On a parlé de Marina Hans et de Laurent Stocker, mais il y a les Godot, comme on les appelait sur le tournage. C'était mes Godot, en fait.
Ouais.
Oui, ce sont des acteurs magnifiques, jeunes, pas tous, soit de théâtre. Voilà, il y a...
C'est pas des vrais tôlards, hein. C'est des vrais comédiens. Non, c'est pas comme Bruno Dumont, parce qu'en revanche, je vais tourner dans le site d'une prison.
On a tourné dans la vraie prison de Meaux. On a été accueillis pendant 8 jours, ce qui est assez rare pour une équipe de tournage. Mais ce sont des faux détenus, des vrais acteurs qui devaient jouer des mauvais acteurs, qui jouent de mieux en mieux.
Exactement.
C'est là où on voit la performance des acteurs qu'on avait dans ce film.
Vous dites que vous avez été accueilli, vous avez été plus qu'accueilli dans cette prison.
Oui.
Le réalisateur raconte que vous avez été acclamé.
J'ai été acclamé.
Comment ça s'est passé?
Pas que. Non, mais c'est-à-dire que...
Ah, vous avez été chambré aussi par les tolards.
Mais grave. Mais
ah
ça,
bon
c'est... Alors, j'ai même une petite anecdote là-dessus.
Allez-y.
Parce que je tournais avec Laurent
vous
Stocker.
Avez 30 secondes.
Oui, Laurent Stocker est plus petit que moi, vous savez. On est sorti d'une scène, on a traversé le couloir qui est extérieur où tous les détenus peuvent vous voir depuis leur chambre. Et il y en a un qui a gueulé. Oh, Cad, t'es venu avec le petit Nicolas? Voilà. Bon, ça me fait rire.
Moi aussi, ça me fait rire.
Je sais pas si ça vous fait rire chez vous à ce moment-là, mais moi, ça m'a fait rire. Et Laurent, ça le fait beaucoup rire.
Moi, ça me fait rire.
Mais il chambre, et puis en même temps, il vous aime, et puis voilà, c'est comme ça. Hein.
Dans un instant, c'est Lisa Marie Marquez qui arrive dans ce studio. Ça sera le portrait pré-fame de notre invité, Cad Merad. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Cad Merad, un triomphe, c'est demain dans les salles, un triomphe, je vous le souhaite maintenant. Bonjour Lisa Marie Marquez.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes avec nous pour faire le portrait de notre invité, un portrait inédit, le portrait de l'invité avant sa célébrité.
Ah.
Et oui, bonjour Cad Merad.
Bonjour Lisa Marie.
On vous connaît acteur, réalisateur, scénariste, humoriste, vous êtes l'une des personnalités préférées des Français. Vous avez été récompensé par un César et nommé aux International Emmy Awards. Mais Mais comment en êtes-vous arrivé là, Kadmerad ? On va revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Vous êtes né à Sidi Bel Abbès en Algérie,
Californie,
excusez-moi, mais c'est près de Paris, à Ris-Orangis, que vous avez grandi.
Eh oui, Ris-Orangis.
À l'école Michel Ordener, située à 700 mètres de la maison familiale, vous êtes Kadour, un élève discret, discipliné, docile, mais pas très bon, sauf en sport.
C'est vrai.
En CM2, avec votre instituteur Roger Latrubert, vous découvrez le rugby.
Oui,
un sport
c'est fou,
que vous pratiquerez jusqu'en catégorie senior au poste de demi d'ouverture, numéro 10. On vous surnomme à la botte impériale suite à ce match où votre équipe perdait et où vous avez transformé un essai à 40 mètres des poteaux juste avant qu'il ne se mette à neiger, c'est ça ?
Oui, alors oh la vache, ça va vite. C'était un miracle. Il s'est mis à neiger, on était au mois de mai.
Ouais.
En région parisienne, donc quand même, c'est un miracle. Ouais. Mais c'est vrai que c'était la botte impériale. C'est pas un restaurant chinois. Hein.
Non.
C'est vraiment comme ça qu'on m'appelait dans le milieu du rugby.
Magnifique.
Petit milieu.
Au collège Jean Lursa, votre prof d'espagnol, Madame Rosas, vous initie au théâtre avec ses ateliers et vous remportez un concours d'interprétation lorsque vous jouez Garcia Lorca. Bien plus tard, vous la remercierez pendant votre discours lorsque vous obtiendrez votre César.
C'est vrai.
Une autre de vos grandes passions, c'est la musique. Vous aviez des posters d'Elvis Presley dans votre chambre d'adolescent et une batterie près de votre lit. Parfois, l'une des cymbales servait à vous réveiller lorsque votre copain Eric arrivait chez vous et que vous dormiez encore.
Bah oui, c'est tout ça. Mais comment alors il va falloir m'expliquer comment vous savez tout ça. Chaque fois, c'est bien, hein, vous me direz vos sources quand même. Parce que c'est Eric, vous avez appelé Eric.
Je ne dirai rien. Et justement, la musique, c'est une passion que vous partagez avec Eric et tous vos copains.
C'est vrai.
Vous aimiez écouter Deep Purple, notamment l'album Made in Japan.
Grave. Oh là là, ça c'est The Mule. Solo de batterie de 15 minutes, c'est comme ça que j'ai appris à jouer de la batterie.
De Ian Paice, le batteur de Deep Purple, extraordinaire batteur gaucher.
Vous fréquentiez le Mille Club, rue Gallagher, à Ris-Orangis. Et lorsque vous vous mettiez tous ensemble à faire de la musique, vous baptisez votre groupe les Cravates, puis Antivol, puis Hystérésis. Je prononce bien Hystérésis.
Oui, Cravates, Antivol, c'était l'époque où il y avait téléphone. Donc on s'est dit, bon, mais si il y en a qui s'appellent téléphone, on peut s'appeler les Cravates. On cherchait, tu sais, l'objet. Oui, Hystérésis, oui. C'est parce qu'on on voulait ressembler plus à Genesis. On partait dans une espèce de rock progressif, tu sais, sans chanson, sans chanteur, pardon, juste de la musique, des synthés. On était barrés.
À la batterie aussi, il fallait y aller.
Il fallait y aller. J'avais 22 fûts. J'avais une batterie avec double grosse caisse et 22 fûts.
Oh.
Ah non, mais ça rigolait pas à l'époque.
J'ai envie de voir une photo, Lisa Marie.
Et puis, ado, il y a eu la radio Arc-en-Ciel, une radio fictive dans votre chambre avec votre magnétoscope à bande. Vous passiez vos dimanches à enregistrer et à réécouter vos programmes. Kadour, vous avez toujours pensé que vous alliez faire un métier extraordinaire. Du côté des études, après la seconde, vous vous orientez vers un BEP vente-commerce parce que vous n'êtes pas très manuel, mais il paraît que vous avez triché à l'oral pour obtenir le BEP, c'est vrai ?
Je veux vraiment savoir ce qui vous dit des trucs pareils, parce que c'est pas que j'ai triché, c'est que j'ai embrouillé l'examinateur.
Ah oui, comment ?
Ben, je sais plus, mais à l'époque, j'étais tellement, je voulais tellement l'avoir pour faire plaisir à mes parents, ce diplôme. Je sais pas, j'ai pas payé, je pense que je l'ai embrouillé, quoi. Je sais pas, je sais plus, mais c'est vrai.
Vous commencez votre carrière par vendre des encyclopédies, puis des marmites chaudières, et vous avez même été livreur de prothèses dentaires.
Non. Oui, ça c'est vrai. Oui.
C'est dingue.
Mais la musique vous rattrape. Vous montez un groupe, les Gigolo Brothers, qui fait des reprises rock et des animations diverses dans les restaurants. Vous partez jouer à la Grande Motte avec votre deux chevaux vertes, puis vous rejoignez le Club Med comme géo et musicien. Ça vous conduira à Marbella, en Suisse, puis en Guadeloupe. Et à chaque fois que vous rentrez à Ris-Orangis, vous retrouvez votre folle équipe chez Vincent, dit bébé.
Oui.
Puis vous vous inscrivez au cours de théâtre de Jacqueline Duc et vous devenez très vite son chouchou. Au bout de 3 mois, elle vous choisit pour incarner Alceste dans Le Misanthrope de Molière.
Mm-hmm.
Pour payer vos cours de théâtre, vous travaillez dans une pizzeria à Paris, juste à côté de WeFM.
C'est pas vrai.
C'est, monsieur.
Un jour, les responsables de la radio viennent déjeuner. Vous les entendez dire qu'ils cherchent de nouveaux animateurs. Au culot, vous vous présentez et ils vous recrutent.
Incroyable.
C'est sur WeFM que vous rencontrez un certain Olivier Barou. Et c'est comme ça que naît le tandem Cadet-Olivier. Cadéo suivront le Rock'n'Roll Circus, déjà dimanche, et C'est l'heure avec Jean-Luc Delarue, puis la grosse émission sur Comédie.
Mais quel âge j'ai
C'est dingue. Et
quelle
c'est expérience. Que le début.
En 2003, votre duo débarque sur grand écran dans le cultissime Mais qui a tué Pamela Rose ? Vous avez alors 39 ans et c'est votre premier grand rôle au cinéma. L'année suivante, vous jouez Chabert, le prof de sport inoubliable et sa moumoute dans Les Choristes. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Léon. J'en ai des frissons, en fait.
Ouais, c'est incroyable, hein.
Ouais, et puis si c'était à refaire, je ferais la même chose.
Mais il était déjà célèbre au moment de Cadéo. Moi, je me souviens de lui. Je me souviens que je vous écoutais sur WeFM. C'était extraordinaire. Ils avaient une idée géniale. On passait un film, on le mettait en muet et ils refaisaient les dialogues depuis chez eux. On mettait la FM en même temps que la radio.
Ouais, c'était prodigieux. Un truc de fou. C'est une idée d'Olivier, parce qu'il faut quand même lui rendre hommage, Olivier. Ouais. C'était à l'époque où il y avait Hélène et les garçons tous les soirs, je ne sais plus, avant le dîner. Mm-hmm. Et nous, on était à ce moment-là sur la radio. Les gens baissaient le son de la télé. Et nous, on faisait les dialogues en direct. On ne savait pas ce qui allait se passer.
Ouais.
Et Olivier était très doué pour faire ça. Vraiment.
En général, ils s'engueulent et puis après, ils se font des bisous.
Exactement. Hein,
c'est le scénario, ça va rarement
beaucoup
plus loin.
On essayait de trouver un thème d'impro, puis après on y allait. Quoi. Mais c'est vrai que ça a marché. Et ça a tellement marché, c'est comme ça que Michel Doulizot nous a invités à Télé Dimanche. Et comme ça, les gens nous ont rencontrés, nous ont vus en fait pour une fois. FM, c'est une radio quand même uniquement parisienne, à l'époque. Voilà.
Je pense à tous les gens qui travaillent dans une pizzeria. Et vraiment, ce qui manque dans les médias, ce sont des idées. Mais évidemment, c'est ça qui manque, du talent et des idées. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez.
Merci, Lisa Marie Marquez.
Vous restez avec nous.
Avec plaisir.
Camarade, Culture Média continue. À tout
Merci.
De suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Philippe Vandel.
Exactement.
En compagnie de Cadmerat, c'est sa voix qu'on vient d'entendre, c'est lui qui disait exactement Un Triomphe, c'est le film qui sort demain, dont il est la tête d'affiche. On va parler de nos indispensables, des choses, des spectacles, de la musique à entendre, des spectacles à voir. Et aujourd'hui, un pigiste de luxe dans cette émission pour le premier indispensable. Bonjour Eric Fotorino.
Bonjour Philippe Vandel.
Pour qui ne vous connaîtrait pas ou calculerait pas tout de suite votre nom, vous êtes journaliste, romancier. Et l'an passé, vous avez publié Marina A, un roman consacré à l'une des plus grandes figures de l'art contemporain mondial, c'est la Serbe Marina Abramović. Or, il se trouve qu'elle va donner des performances à Paris, d'où votre présence à ce micro pour en parler, je vous en remercie. Mais d'abord, pour la décrire, qui est Marina Abramović? Qu'est-ce qu'elle fait?
Alors, Marina Abramović, c'est une femme qui a aujourd'hui 76 ans, on l'appelle la grand-mère du body art. Alors, c'est l'art corporel, c'est-à-dire qu'elle utilise son corps comme expression artistique. Alors, c'est quelqu'un qui a commencé à Belgrade, dans un pays qui n'existe plus, et qui a considéré qu'au début, elle a fait de la peinture classique. Et puis, elle a considéré que l'art, ce n'était pas ça. L'art, ça ne devait pas être beau. Ça devait s'exposer, mais s'exposer non pas comme un tableau, mais aussi comme un danger. Et donc, elle expose son corps, comme d'autres exposent des œuvres d'art sur des murs.
À la limite de l'exploser, raconter la performance où elle était seule dans une pièce avec des objets qu'elle laissait à discrétion du public.
C'est ça. Il y a eu deux performances, j'allais dire, qui ont fait qu'elle est devenue ce qu'elle est. La première, c'est qu'elle est encore dans un régime communiste et devant le centre culturel de Belgrade, une nuit, elle va épandre 100 kilos de sciure qui vont former l'étoile du communisme qu'elle a vue depuis qu'elle est enfant sur les papiers, etc. Et puis elle va mettre de l'essence dessus, elle va faire flamber cette étoile et elle est au milieu. Et si personne ne vient la sauver, c'est sa première et dernière performance, elle serait morte.
Et quelques vous avez dit, vous avez prévenu.
Non, c'est bien.
ça décoiffe. Et l'autre que vous citez, Philippe, c'est à Naples en 1974, s'appelle Rythme Zéro. Il y a 72 objets qu'elle dispose sur une table. Il y a des haches, couteaux, un revolver chargé avec une balle. Il y a des roses, il y a du miel, il y a un appareil photo. Et pendant les 6 heures d'ouverture du musée, elle dit « je suis un objet ». Donc elle se déshumanise, elle devient un corps, parce qu'on reprochait toujours aux artistes de s'exhiber. Elle dit « moi je ne m'exhibe pas, je suis un objet, vous faites ce que vous voulez ». Elle finit, à la fin, il y a un type qui prend le pistolet, qui le met dans sa main et qui le braque sur sa tempe. Et c'est encore un spectateur qui est là et qui va la sauver, une fois de plus. Et donc ça, évidemment, ça va défrayer la chronique de façon très spectaculaire.
Elle a aussi posé nue sur un bloc de glace, comme pour se faire congeler. Elle a bu volontairement des substances toxiques. Elle est dans un épisode de Sex and the City, dans laquelle l'héroïne vient assister à une performance, et une performance de Marina Abramović. Et c'est aussi une des idoles de Lady Gaga qui a tourné un clip à sa manière,
oui,
complètement nue, au milieu d'une rivière. Il y a aussi beaucoup de nudité dans le travail de Marina Abramović. Et c'est pas gratuit. Alors, vous avez publié ce roman. Vous ne la connaissiez pas. Vous avez découvert son travail. Elle vous a contacté. Et ensuite, alors là, elle est à Paris. C'est pour ça que vous êtes là pour nous en parler. Est-ce que vous l'avez rencontrée ou pas encore?
Samedi. C'est-à-dire que...
Samedi, vous allez ou c'est fait?
Non, vendredi, je vais assister à son spectacle à l'Opéra sur les 7 morts de Maria Callas. Et le lendemain, on va passer un moment ensemble. Et c'est très émouvant pour moi parce que c'est effectivement quelqu'un que je n'ai vu que sur vidéo. C'est-à-dire que quand je l'ai découverte pour la première fois, c'était à Florence, dans un Palazzo Grassi, vous voyez, au milieu de tout ce qui est très beau de la Renaissance. Et tout d'un coup, il y a cette femme qui se faisait flageller, qui avait avec Oulai, son compagnon, qui braquait la flèche tendue d'un arc tendu à bout portant. Il y avait des microphones pour entendre les battements cardiaques. Vous voyez un petit peu, il y a un baiser de 19 minutes avec des bouts de filtres de cigarettes dans le nez pour qu'ils ne respirent que l'air qu'ils expirent, etc. Donc c'est quand même quelque chose. Et si vous voulez, je l'ai vu que sur vidéo. Et là, c'est quand même un moment pour moi très émouvant. D'autant que le livre va être traduit en serbe, qui est sa langue maternelle et qui est pour elle évidemment très important.
Alors on pourra la voir du 1er au 4 septembre à l'Opéra Garnier. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a encore des places?
Alors oui, je pense qu'on peut toujours y aller, même si elle est très attendue. Elle a donné ce spectacle, je crois, une fois à Munich en 2020. Elle s'est toujours identifiée à la Callas. Elle l'a entendue quand elle avait 14 ans, quand elle dit à notre concert de Elle cette semaine que finalement, le point commun avec la Callas, c'est qu'elle avait tous les deux des mères terribles, des mères peu aimantes. Mais au-delà de ça, toute l'œuvre de Marina Abramovic, c'est la mort et l'amour. Et donc évidemment, pour elle, à travers la vie et la mort de Maria Callas, qu'elle réinterprète, avec aussi Tosca, Carmen, etc.
Mais elle ne va pas chanter, si ?
Non, elle ne chante pas, mais il y a des interprétations, tous les grands arias vont être chantés.
Cadmerade.
Ça m'inspire une...
Je crois qu'il est inquiet.
Non, mais ça m'inspire une... Je sais pas, c'est pas cette dame, mais moi, je suis tombé sur une expérience aussi d'art contemporain. C'est un artiste ou une performance, un artiste qui vous propose d'acheter un tableau, mais il n'existe pas ce tableau, il le pense. Ouais. Vous connaissez pas cette histoire?
Non, vous êtes fait avoir par
c'est
un roman.
Non, c'est vrai, il vend le tableau, on pensait, il y a un acheteur, je crois que ça a été vendu plusieurs milliers d'euros.
C'est une belle idée.
Oui, mais il vous raconte à vous, l'acheteur, le tableau qu'il a dessiné, qu'on ne voit pas. Voilà. C'est magnifique comme histoire.
Ce qui est très très fort,
j'adore,
ça magnifique. Formidable. Mais ce qui est complètement dingue dans l'œuvre de Marina Abramovic, c'est qu'elle se met elle-même en danger.
Absolument ça va plus loin.
Saisissant.
Avec une très grande sincérité, on peut finir avec le MoMA en 2010, lorsque près d'un million de personnes vont venir s'asseoir, comme j'ai la chance d'être en face de vous, Cad, quelques minutes ou quelquefois quelques heures en face d'elle pour croiser son regard. Et ça va être un événement incroyable à New York en 2010, où elle reste des heures et des heures assise à attendre le regard des autres. Donc elle commence sa carrière de performeuse avec la flagellation et le corps qui souffre, et elle le finit avec des regards qui se touchent et en faisant passer des émotions immenses.
Je suis capable de vous réinviter une troisième fois pour nous raconter comment s'est passée la rencontre avec Marina Abramovic. C'est vraiment, vraiment passionnant.
Je vous raconte
merci.
Très volontiers.
Eric Fotorino, merci, vous connaissez les Sparks? Vous connaissez les Sparks, évidemment. Qui ne connaît pas les Sparks?
Bande originale du film Annette, d'ailleurs.
Tout le monde ne connaît pas les Sparks.
Et bien, justement, on en parle avec Stéphanie Loire, dont on vient d'entendre la voix. Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Cadmerade, on va parler musique tout à l'heure, parce qu'il y a un spectacle qui arrive sur Canal, ça sera le 17 septembre, mais là, avec Stéphanie Loire, rebonjour Stéphanie.
Bonjour à tous, rebonjour Philippe, rebonjour Cad.
Vous voulez nous parler d'un duo d'artistes excentriques, c'est le mot, non, là encore.
Ah oui, on est complètement dedans, je viens vous parler des Sparks, et l'excentricité, c'est carrément leur colonne vertébrale. L'excentricité, c'est littéralement, si on cherche la définition, avoir un comportement ou une manière de s'habiller qui sort de ce qui est habituel, à l'heure où on boit tous les mêmes caramels macchiato chez Starbucks, où on partage tous les mêmes hashtags sur les réseaux sociaux, où critiquer l'uniformisation, c'est ce qu'il y a de plus uniforme, l'excentricité des Sparks, elle est tout simplement libératrice. Je suis là pour vous parler des Sparks, ce sont deux frères californiens septuagénaires aujourd'hui, loufoques et élégants comme des Anglais, alors que ce sont des Américains.
Oui, j'ai toujours cru qu'ils étaient Anglais.
Ouais, peu connus du grand public, mais dont le style glam rock pas si éloigné de celui de Bowie, infuse discrètement la pop depuis un demi-siècle. Ça fait un moment qu'ils sont là, les mecs. Paul McCartney est un de leurs grands fans, ce qui vous donne une idée de l'importance qu'ils ont dans le paysage musical. Ils échappent à tous les clichés du rock. Pas de séparation, pas d'addiction, pas de frasque, pas de grand comeback. Pour ceux à qui ça ne parle pas et pour ceux qui adorent, on écoute un extrait des Sparks. Alors, avant qu'on aille plus loin dans cette chronique, je tiens à vous avouer quelque chose. On va avoir le temps de faire connaissance au fil de l'année. Je parle anglais comme François Hollande.
D'accord.
Donc, comme il va y avoir beaucoup de mots anglais,
c'est pas très grave.
Peut-être parfois je vais vous solliciter quand ça deviendra un
sujet. J'ai passé 2 ans avec Hélène Manarino, donc je suis habitué. Et on la salue.
Le titre qu'on vient d'entendre, c'est This Town and Big Enough for Both of Us.
Ouais.
Ça va?
C'est pas mal. J'ai rien compris, mais c'est pas mal.
Cette ville n'est pas assez grosse pour nous deux.
Voilà, c'est un titre qui est sorti en 1974. C'est le plus connu des Sparks. Il parle de cannibales en manque de protéines, Et je trouve que c'est un texte qui résume assez bien leur univers. Les Sparks sont influencés de près ou de loin pléthore d'autres artistes, des Pet Shop Boys à Björk, en passant par New Order ou Beck.
Et là, on pense à Queen. Hein.
Et évidemment, on pense à Queen aussi. Les Sparks sont de grands amoureux du cinéma français. Ils ont signé la bande originale du film Annette de Léo Scarrax, un opéra pop qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes cet été et qui est encore à l'affiche d'ailleurs au cinéma. Au casting, Marion Cotillard et Adam Driver qui mettent leur talent de chanteur au service du film. On écoute un extrait. Comme sur tous les titres du film, on retrouve la Sparks Touch. Alors ouais. C'est quoi la Sparks Touch ? C'est des paroles cryptiques, des orchestrations lyriques et une poésie bien déglinguée que moi j'adore. Vous aimez Cad ?
Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Je comprends pas évidemment toutes les paroles aussi, mais...
Et la voix qu'on entend, c'est eux qui chantent. Il y en a un qui chante dans les graves et l'autre en voix de fausset, une voix de tête dans les aigus, j'adore.
Et ce sont les acteurs qui chantent dans le film. Les Sparks sont compositeurs, paroliers du film musical, mais c'est aussi eux qui ont eu l'idée originale d'Annette. Pour faire le pitch, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le film.
Alors, je le sais parce que j'ai pris des notes, c'est l'histoire d'un stand-upper et d'une cantatrice célèbre qui forment un couple épanoui, glamour, couple qui va être totalement bouleversé par la naissance de la mystérieuse fille Annette au destin hors du commun. Pourquoi est-elle mystérieuse ? Faut voir le film.
Exactement. Depuis leur début, les Sparks ont toujours puisé dans l'univers du cinéma pour nourrir leur musique. Ça les passionne. Ils ont flirté avec Jacques Tati au milieu des années 70, Tim Burton, Ingmar Bergman, Guy Madin. Mais c'est avec Carax qu'ils ont conclu. On écoute un autre extrait de la bande-son d'Annette signé par les Sparks. C'est un peu comme si on vous emmenait à l'opéra ce matin. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur les Sparks, il y a un doc musical qui est génial, qui est très chouette, qui s'appelle The Sparks Brothers, qui est sorti au ciné cet été. Le réalisateur, c'est Edgar Wright, normalement qui fait du cinéma de genre. Il a fait entre autres Shaun of the Dead, et puis qui retrace l'épopée du groupe en deux heures que je vous invite à écouter. Ou à regarder surtout.
On va c'est génial. Comme
C'est vraiment bien.
C'est bien. Hein.
Ouais, c'est et il y a aussi ce titre génial, Singing in the Shower, avec les Rita Mitsouko. Ce duo vraiment dingue. On va écouter les Sparks maintenant ou
on
pas
On va écouter les Sparks, parce que les Sparks, en 2015, ils ont fait un groupe avec les Franz Ferdinand. Ils appelaient ce groupe le FFS. Et on écoute Johnny Delusional. Words are in my head. But I can't enunciate them clearly. Headphones on your head, they prevent a chance to even try. Some might find me borderline attractive from afar. But afar is not where I can stay. I know yes and no in a couple dozen.
Johnny Delusional, c'était FFS sur Europe 1. FFS, c'est le duo entre Franz Ferdinand et les Sparks. Dans un instant, Marc-Antoine Lebray face à Kad Merad. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Philippe Vandel.
En compagnie de Kad Merad, Un Triomphe, c'est un film qui sort demain. Autre actualité pour vous, Kad on Stage, ça veut dire 4 sur scène, ce sera sur Canal+, le 17 septembre, enregistré au Cabaret Sauvage. C'est quoi l'idée? Il y a du monde, il y a du casting là, non?
Il y a du casting, il y a des musiciens, il y a de la musique, il y a des invités, des guests, comme, je ne sais pas. C'est né un peu par hasard, cette aventure, et ça a pris des dimensions, des proportions incroyables, jusqu'à passer en prime sur Canal+, le 17 septembre à 21h. Voilà, il y a Gary Roussel, Florent Pagny, Ibrahim Malouf, Angélique Kidjo, j'en ai oublié certainement.
Mais
Jean-Jacques Milteau.
Ils vont faire leurs morceaux ou
non,
des reprises?
Non, c'est des duos qu'on fait ensemble.
Mais
et ce
reprises,
sont que des reprises.
Que des reprises.
Que des reprises. Et au milieu, tout ça, il y a une bonne humeur, une bonne ambiance, j'espère, amener avec ma personnalité. Mais j'ai surtout des musiciens extraordinaires. Ils sont 11 musiciens, dirigés par Avera Koto-Firinga, directeur musical. Et vous allez voir, enfin, j'espère, vous allez regarder, parce que c'est de très bon niveau musical.
Et il y aura du Jean-Michel à peu près?
Il y aura quelques Jean-Michel et il y aura surtout Manitas.
Ah oui, on va dire qu'il y a Manitas, mais d'abord un Jean-Michel à peu près pour se mettre dans l'ambiance.
Il ne connaît pas bien les paroles de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à peu près.
Il y a des nouveaux? Jean-Michel à peu près, c'est le gars qui connaît pas ses paroles. Est-ce qu'il y a des nouveaux, Jean-Michel?
Je peux pas vous dire, en fait.
Ah, donc si vous dites ça, c'est qu'il y a des nouveaux.
C'est pas une émission de sketch, hein, c'est vraiment un concert. Hein, c'est un concert-spectacle. Faut pas s'attendre à avoir des sketchs, attention. Il y a des moments, j'espère, drôles. Mais les Jean-Michel, attention, hein, je vais pas ressortir les vieux trucs, moi.
Tellement,
c'est pas mon genre.
Tellement de projets que vous avez. Dans quoi on va vous voir? L'année du requin, c'est tourné?
Ça, c'est fini. Les frères Boukerma, Ludovic et Zoran Boukerma, l'année du requin, ceux qui avaient fait le Teddy, magnifique film qui est sorti il y a pas longtemps.
C'est un vrai film d'horreur ou
c'est
une parodie
un film de genre? Non, c'est un film de genre. C'est un requin qui menace les côtes landaises.
Bien sûr, c'est...
Pourquoi pas, avec le réchauffement climatique, je suis désolé. Non, c'est réaliste, c'est très sérieux. Alors, il y a de l'humour, il y a Marina Foïs qui fait ma femme, ou plutôt je fais son mari, parce que c'était elle le rôle principal du film. Et Jean-Pascal Zadi aussi, notamment, et c'est un film, écoutez, le scénario est dingue, et il y a vraiment un requin, je ne peux pas vous dire comment il sera fait, comment il sera fabriqué, si c'est un vrai, si c'est un faux. Ouais.
Voilà. Vous avez dit bonjour à Julia Vignali ou pas?
Pas encore.
Non, parce qu'on va dire quand même quelque chose.
Madame.
Julia Vignali, qui est votre compagne à la ville, est maintenant sur Europe 1, elle présente l'émission Bien fait pour vous, avec Mélanie Gomez qui est aussi dans ce studio.
Alors il faut faire attention parce que là, tout ça va être repris vous savez que dès demain, si vous faites Google et tout ça, passage d'antenne, ils se retrouvent ensemble, donc il faut faire attention à ce qu'on va dire.
C'est pour ça que je mesure chaque mot. Donc elle est partie à 4h du matin, donc vous la voyez. Est-ce que vous l'avez vue à la télévision tout à l'heure?
Oui, je la regarde depuis une semaine tous les matins.
Où en est votre projet commun de long métrage?
voilà question piège.
Attends, c'est énorme. Quel long métrage? Téléstar, Julia Vignali, 22 avril. Je suis en train d'écrire le prochain long métrage que va réaliser et interpréter mon cher étendre.
Comme ça, voilà.
Ça me passionne.
Mais quel mytho je suis.
Non, c'est un projet qu'on développe ensemble, c'est vrai, depuis 2 ans maintenant, qui prend du temps parce que c'est pas un sujet facile.
Ouais.
Mais on va y arriver.
On va y arriver.
Marc-Antoine Lebray, bonjour.
Bonjour.
Le gars dit pas bonjour,
le gros bonjour, comme ça. Bonjour.
Je l'ai pas entendu. Il est l'heure de retrouver votre story. Des personnalités vont s'adresser à d'autres invités, Kad Merad, à commencer par son ami Danny Boone.
Salut tout le monde, comment ça va? Dis donc, mon code, tu me manques, hein? J'ai trop envie qu'on refasse un petit film, toi et moi.
Enfin, toi et moi et d'autres acteurs, hein. Sinon, ça fait un peu coquin. Hein. Ben, notre truc, c'est bienvenue chez les ch'tis, pas bienvenue les chez le ch'tis. Hein.
Oh.
Bon, en tout cas, dommage que je sois pas avec toi dans Triomphe. Ben, j'aurais pu jouer un détenu. Hein. Ben, regarder le plafond tout gris et moche de ma cellule, ça m'aurait pas changé du ciel du schnorr.
Et une personne avec qui vous entendez également très très bien qu'Admirad est avec nous.
Oui, salut les loups, c'est Nikos. Salade tomate oignon, sauce samouraï, mais sans le sabre, sinon ça picote le lendemain à Liagas. Cad, mon loup, je suis venu pour te dire merci d'avoir changé mon look quand t'es venu à 50 minutes inside. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, Cad m'a rasé la moustache. On a ri, on a ri. Et puis après, quand j'ai voulu lui raser les cheveux, là ça l'a pas fait rire du tout. En plus, en me rasant la moustache, tu m'as fait une belle coupure. Heureusement que tu m'as pas coupé aussi les ongles parce que j'étais bon pour représenter la Grèce aux Paralympiques, catégorie amputée des bras. Bye bye les loups.
Et puis un collègue de travail de votre compagne Julia dans Le Meilleur Pâtissier qui est là aussi, c'est Cyril Lignac.
Salut tout le monde.
Ah
bon, Carl, t'es en couple avec Mercotte? Je sais pas. Ah bah merci pour elle, hein.
Mais non, il est avec Julia Vignali.
Ah, ça me rassure. Ça me rassure pour les goûts de Cad et pour le col du fémur de Mercotte. Oh. Julia, c'est gourmand et Mercotte, c'est craquant. Bon, Psartec, rouillard.
Et puis on termine avec une petite surprise, Cad.
La compilation des politiques qu'on voit qui sait, mais qu'on sait plus trop son nom. Il ne fait que 50% de ce qu'il dit, c'est Jean-Michel Blanquer.
Dès la semaine prochaine, il y aura dans les classes des... Dès demain, je m'engage pour que chaque élève et prof ait... Bien sûr que je vais... Voir.
Pardon.
Voir.
Merci Marc-Antoine Lebray, très bel hommage. Merci à tous, merci Cad.
J'ai fermé les yeux comme si j'écoutais la radio. C'est très impressionnant.
Demain, il faut que je retrouve ma page. Demain, dans Culture Média, on va recevoir le nouveau patron, le nouveau PDG de Public Sénat, c'est Christopher Baldelli, qui va nous donner les détails, la rentrée de sa chaîne. Et puis la révélation des victoires de la musique 2021, c'est le chanteur Hervé qui sera avec nous. Je vous dis à demain. Merci à tous.
Merci.
Salut Cad Merad. Un triomphe, c'est demain en salle.
Et maintenant, je vais écouter la suite, puisque maintenant il y a.
Bien fait pour vous.
Mais oui, bien fait pour vous. J'ai pas demandé le programme, j'avais oublié ça.
Alors le programme.
Je voulais tellement faire court que j'ai fait trop court.
Vous êtes pas du genre râleur, vous?
À peine.
Oh si, bah voilà. Bah, on est plein
pas, Julia, non?
Moi je suis pas trop râleuse,
ouais.
Non, moi je suis pas trop.
Je vais pas vous raconter non plus notre vie.
Non, on va faire un sujet.
Demain, vous allez voir, ça va parler que de ça, donc ça va maintenant.
Dans Bien fait pour vous, on va parler des râleurs. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce qu'il faut arrêter, Mélanie, et baisser un peu le ton?
Puis on va parler de votre boisson préférée aussi. C'est l'eau, n'est-ce pas?
Oui, évidemment. Toujours.
Vous avez bu que ça tout l'été, il paraît.
Mais tellement.
On va voir si c'est les les bonnes doses ou pas. On fera le point sur l'hydratation.
Ça peut se couper avec du rosé. Allez, bonne émission, à demain, salut.
Merci, au revoir.